cœur d'Octobre Rose, ce sont deux associations particulièrement mobilisées, impliquées dans la lutte contre les maladies que nous avons choisi d'inviter dans notre média. Une bande de copains, les Agités du Bocage. Ils ne sont pas tous là, je vous rassure, mais bien représentés par deux Christelle, Christelle Rambaud et Christelle Malinge, qui nous apportera son précieux témoignage en tant que malade. Et puis Philippe Barbotte, le vice-président du comité de Sévrien de la Ligue contre le cancer, qu'on ne présente plus. Merci à vous trois d'avoir répondu à mon invitation et merci à mes confrères de la presse écrite qui relaient cette émission dans leur colonne. Dominique Cadu pour le Courrier de l'Ouest, Dominique Guignifolo pour la NR. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
C'est avec votre témoignage, Christelle, que j'aimerais ouvrir la discussion, puisque c'est à travers votre quotidien, votre parcours, que nous allons entendre la réalité de la maladie et vos demandes, vos besoins pour mieux la combattre. Un cancer du sein, donc, diagnostiqué il y a 7 ans, et une récidive.
Oui, c'est ça. Donc, 2014, examen et annonce d'un cancer du sein. Donc, prise en charge assez rapide et avec une récidive déclarée fin 2018, début 2019.
Quand vous dites une prise en charge assez rapide, je veux dire au niveau des hôpitaux, depuis votre médecin traitant, peut-être qui a diagnostiqué jusqu'au cancérologue, vous vous êtes senti tout de suite soutenu?
Oui, les examens, le diagnostic sur bressuire fait par monsieur Villemontex, mon gynéco qui me suivait à l'époque et qui m'a même opéré. Ça se faisait encore à bressuire. Et puis prise en charge par Poitiers au PRC, pôle régional cancer.
Là, c'est pour l'aspect physique de la maladie, mais il y a aussi toute cette énergie qu'il faut déployer à ce moment-là pour garder le moral. Est-ce que là encore, vous aviez autour de vous les personnes qu'il fallait pour mieux combattre et garder le moral?
Oui, effectivement, quand je suis allée voir mon gynéco qui me l'a annoncé, je pense que lui, ça fait partie de son quotidien, sauf que moi, ça faisait pas partie du mien. Et donc, je suis ressortie seule, et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je retourne travailler, je suis en arrêt, c'est quoi? Et du coup, j'ai appelé ma maman, parce qu'elle aussi a vécu la même chose. Et je me suis dit, elle s'est battue, elle y est arrivée, donc pourquoi pas moi? Donc, sur le moment, moi, j'ai pas tout de suite réalisé ce qui m'arrivait.
Là, c'est l'état de choc.
Voilà. Donc, j'ai assez confiance en la médecine. Enfin, je me dis, ils vont y arriver. Il y en a plein. Il y a plein de femmes à qui ça arrive. Voilà. Et puis, effectivement, après, on vous annonce les traitements lourds. Et puis, toutes les conséquences. Et là, on commence un peu plus à réaliser, je trouve. Et alors, effectivement, on est seul. Enfin, on est seul. Non, maman me disait souvent, écoute, il y en a plein à qui ça arrive. Il y en a plein qu'on aurait pu enterrer plein de fois. Et en fait, elles sont toujours là. Donc, c'est à cette personne-là qu'il faut penser. On va se battre et on va y arriver. Et effectivement, c'est ce que je fais depuis. Alors, je vous dis pas que c'est tous les jours facile, qu'on a l'énergie pour. Mais en même temps, quand on est bien entouré de la famille et des amis, eh bien, on y arrive.
On y arrive aussi grâce à cette énergie dont vous aviez besoin et que vous communique forcément la famille, ça on l'a bien compris, la maman en premier, mais aussi les copains, les copines et les agités du Bocage dont vous faites partie. C'est une association qui s'est mobilisée à un moment, une bande de copains-copines, parce que les uns et les autres, vous avez été touchés de près ou de loin par la maladie. Et cette énergie-là, elle est fondamentale et cette bande de copains qui se mobilisent et qui font des choses en tant que telles pour apporter leur aide concrètement pour lutter, combattre cette maladie, elle est indispensable.
Oui, parce qu'en fait, quand je partageais mon expérience, et les copains aussi ont été touchés, pas que par mon biais, je racontais ce que je pouvais vivre sur Poitiers, et je me suis dit, et puis c'est vrai qu'à l'époque, on faisait un peu de course à pied, on faisait des petites... Et on participait à la course de la Partenésienne. Et on s'est dit, c'est quand même incroyable, Bressuire, une ville dynamique, sportive, et il n'y a rien. Pour Octobre Rose, il n'y a rien. Et moi, je disais, mais je vous assure, quand on a le cancer et qu'on habite à Bressuire, et on est seul. On n'a rien. Alors que quand j'allais à Poitiers, j'ai pu profiter de plein de soins de support qui m'ont été bénéfiques. Et je me disais, mais je pense pas qu'il n'y ait que moi qui qui ait besoin de ça. Ouais, et je me dis, il faudrait faire quand même quelque chose. Moi seule, forcément, je ne pouvais pas y arriver. Et je pense que les copains se sont saisis de mon témoignage pour dire, bon, allez hop, on y va. On va créer la Marche Rose. Et puis, dans le but de créer une antenne sur Bressuire pour pouvoir proposer des soins de support aux malades de Bressuire.
Voilà. Alors, on y viendra, hein, ce que vous souhaitez faire en commun avec la Ligue. Mais d'abord, Christelle, donc la présidente des Agités du Bocage, à un moment, il n'y avait pas de secret, il fallait être solidaire. Parce que c'est toujours pareil. Tout pendant qu'on n'est pas concerné par la maladie dans sa famille ou par un proche, on ne se rend pas forcément compte, justement, des écueils auxquels sont confrontés les malades.
Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on s'est retroussé les manches et en fait, on se voyait régulièrement. Alors, comme l'a dit Christelle, pour faire des petites courses à pied, et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on profiterait pas de nos rencontres pour essayer de faire des choses concrètes, hein, sur la ville de Bressuire. Donc, déjà, on a fait l'association Les Agités. On a mis quand même une année. Je dirais, avant de faire la première marche, on a vraiment, pendant une année, on s'est regroupés pour réfléchir à nos statuts, pour réfléchir... Et puis, on est tous originaires de Bressuire, du Bocage, mais on a tous des vies un peu à l'extérieur, donc c'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, voilà, on a pris le temps de ça, on a cherché vraiment des partenaires qui voulaient aussi participer avec nous. Et c'est vrai que ça a pris du temps. Et puis, on s'est lancé, voilà, on a fait la première marche rose, donc du coup, il y a 6 ans.
Ce sera la cinquième.
Ce sera la cinquième, mais donc on a commencé notre asso il y a 6 ans et du coup on a démarré il y a 5 ans. Alors de façon assez modeste, hein, puisque la première marche on a eu à peu près 200-250 marcheurs, mais on était quand même assez fiers de nous. On s'est fait des t-shirts, on a commencé à se faire connaître. Et puis du coup, la deuxième année, on a eu presque 500 marcheurs. La troisième année, 750. Donc c'est vrai qu'on était quand même assez fiers. Et en fait, à chaque fois qu'on organisait cette marche, moi ce qui m'a vraiment frappé, donc c'était beaucoup quand même, c'est nos marcheurs, c'est beaucoup des femmes qui sont une cinquantaine, 60 ans, qui viennent nous voir en disant c'est super ce que vous faites parce qu'on se sent seul et qu'on n'a pas d'endroit sur Bressuire pour discuter de la maladie. Voilà. Et ça, vraiment, moi, ça m'a vraiment marqué parce que c'est vrai qu'en tant que présidente, les gens venaient aussi beaucoup vers moi. Et du coup, c'est aussi ça qui nous anime, c'est de dire qu'il y a entre la ruralité et les villes, hein, moi j'habite Angers, je vois bien qu'il y a quand même un grand écart, hein, entre ce qui se fait dans les grandes villes et puis ce qu'on vit au quotidien dans le milieu rural.
Dominique,
qu'est-ce qu'une antenne bressuraise apporterait aux malades du cancer qu'on trouve dans une grande ville comme Poitiers ou Angers?
Bien, déjà de la proximité, parce que Poitiers c'est quand même 1h30 de route, et et puis ça veut dire qu'il faut y aller par ses propres moyens si on veut bénéficier des soins de support. Donc moi c'est plutôt un lieu référencé de proximité où on puisse aller se poser, boire un café, discuter avec des bénévoles formés, proposer des instants de rencontre, alors avec un support de marche, peut-être un instant pour aller à la piscine. Quand on dit tu peux bien y aller à la piscine, oui, sauf que quand vous êtes marqué physiquement dans votre corps, c'est pas si simple que ça d'aller à la piscine au créneau public. Je vous cache pas que les traitements, l'effet secondaire le plus marquant pour une femme, je pense, c'est l'alopécie, la perte des cheveux. Aller à la piscine avec un bonnet, on dit ça se voit pas. Vous le voyez pas, nous on le sait. Et peut-être pour déjà commencer à se dire j'ai le droit d'aller à la piscine parce que je vais être avec des femmes qui savent ce que je vis moi aussi. Après, ça peut donner l'envie d'y aller à un autre moment et des créneaux publics, mais pour pouvoir commencer cette démarche. Et puis moi j'ai eu du shiatsu, j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait de l'aromathérapie. Et du coup, c'est quelque chose que j'aurais peut-être jamais fait si j'avais pas été malade, ça c'est sûr.
Mais tout ça à Poitiers, Christelle.
À Poitiers. En fait, je mettais à profit tous mes allers quotidiens quand j'étais en séance de rayon, parce que les rayons c'est entre 30 et 35 jours, enfin en tous les cas ce qui me concerne, tous les jours aller à Poitiers, 3 heures de route pour 2 minutes de traitement. Donc je me disais, je regardais le planning qui nous était proposé et je m'inscrivais dans les soins les soins de confort proposés. La socio-esthéticienne, on perd les cheveux, on perd les sourcils, elle vous apprend à... Parce que bah, il y a quand même aussi une réalité, c'est l'image physique que l'on renvoie. Donc on est content d'avoir tous ces conseils-là en tous les cas.
Vous parlez de soins de confort. Est-ce que c'est vraiment des soins de confort ou c'est quelque chose qui est, entre guillemets, pas vital, mais qui est primordial pour passer ce cap, ce challenge, ce défi?
Oui, alors je parle de soins de confort parce que ça apporte du confort au quotidien. Et effectivement, si on ne l'a pas, c'est pas la même chose. Là, lors de ma récidive, avec le Covid, eh bien, il y a moins de propositions. Eh bien, je le sens. Je suis pas, j'ai peut-être plus de bas que de haut que j'avais il y a 4-5 ans. Et ça, je trouve ça dommageable. Il y a aussi le fait d'être accompagné. On parlait du soutien de la famille et des amis. 2014, je peux faire hein, l'avant-Covid, après-Covid. Hein. 2014, quand j'allais à Poitiers, j'avais le droit d'être accompagnée. Donc j'emmenais ce que j'appelle ma Ginette à chaque fois que j'allais en traitement. Eh bien aujourd'hui, c'est nos Ginettes, quoi, parce que j'ai pas le droit de venir accompagner, parce que le Covid... Voilà. Bon, ça m'interroge, hein. Je trouve ça très discutable. Je me permets d'en parler à Poitiers quand j'y vais. Je suis plus actrice dans ma maladie, dans la récidive, que la première fois. Première fois, bah voilà, hein, ça nous tombe dessus, et puis on se laisse aller, et voilà. Là, la deuxième fois, j'ose dire des choses. J'ose dire, bah non, là, je veux pas d'examen à ce moment-là parce que je veux me garder cette semaine pour être tranquille. Voilà. Et par contre, ils répondent très positivement. Je peux pas dire, j'ai eu aucun examen d'annulé, par contre, aussi avec le Covid. Et à chaque fois, ils sont très à l'écoute de ça. Sur Poitiers, en tous les cas.
Comment faire dans votre situation? Est-ce qu'il faut en parler du matin au soir, du lundi au dimanche, ou est-ce que vous voulez vivre normalement sans en parler?
Par rapport à l'antenne, vous voulez dire?
Par rapport à votre maladie. Au quotidien?
Non, alors j'en parle pas au quotidien. Les gens qui veulent poser des questions, j'en parle ouvertement. Mais je parle d'autre chose. Je parle pas forcément de ma maladie. Par contre, ce qui est compliqué, c'est quand on est malade, on est en arrêt de travail. Moi, je faisais de la course à pied, j'en fais plus. J'allais à la salle de sport, j'en fais plus. Donc on a tout un réseau comme ça qui vous donne matière aussi à discuter. Eh bien, là, vous n'avez plus rien. Et c'est vrai, quand on se rencontre avec les gens, bah, parfois, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai à dire à part parler de ma maladie et de mes soins? Et alors, ça fait du bien, mais en même temps, on se dit, mais moi, j'ai envie de partager autre chose, quoi.
Et c'est ça aussi qui est terrible. C'est, en fait, on se rend pas compte, mais la maladie, elle isole, parce qu'effectivement, parfois, on est obligé de s'arrêter de travailler. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il nous semble qu'une antenne à Bressuire serait profitable, parce que voilà, c'est un support. Ça oblige aussi à aller peut-être aller à honorer des rendez-vous, parce que en fait, c'est ça, c'est organiser sa vie malgré tout. Même si on est malade, et du coup avoir des rendez-vous réguliers, peut-être faire une marche par semaine, peut-être aller boire un café. Enfin, alors après, effectivement, les antennes, enfin, j'imagine, il faut beaucoup de bénévoles aussi pour pouvoir créer cette dynamique. Mais en tout cas, entre rien et un petit peu, voilà, c'est ça qu'on essaye d'impulser, et du coup, qui me semble important. Et puis, par rapport à votre question sur comment on parle de la maladie, c'est vrai que nous, on est une bande de copains. Alors on essaie de mettre en place des actions et tout ça, mais voilà, c'est pas que parler de la maladie, et c'est aussi amener une énergie, quoi, hein, comme vous dites, Jacqueline, une dynamique pour justement aller de l'avant, positiver, se dire qu'il faut profiter aussi des moments présents, hein, c'est très important. Et c'est pas facile d'expliquer aux gens, ben oui, il faut profiter des moments présents, continuer à avancer sans effectivement dramatiser, et justement en parler, c'est aussi dédramatiser la chose. Si on n'en parle pas, du coup, il faut dédramatiser, je trouve, les choses, et puis ne plus en faire un sujet tabou, parce que pendant longtemps on parlait pas du cancer, et comme d'autres maladies, hein, je dirais, et des effets. Moi, un exemple à Angers, par exemple, il y a un SASAD, c'est un service d'accompagnement à domicile, qui accompagne alors le malade, mais aussi sa famille. Parce que ça a des effets sur le mari, l'aidant, la la femme aidante, mais aussi des enfants. Et du coup, comment on explique tout ça, comment on est pris en charge, ben, c'est sûr que je ne sais pas si dans les Deux-Sèvres ça existe. En tout cas, à Angers, le SASAD se déplace dans les familles. Et voilà, c'est quand même très important. On se sent vraiment considéré. Et j'en reviens aussi, par exemple, aux soins de confort. On dit soins de confort, c'est nommé comme ça par la Sécu. C'est quasiment indispensable.
Oui, ça devrait être des soins obligatoires.
Voilà. Donc, en fait, c'est tout cet accompagnement autour qui, pour moi, manque. Et qui fait que, ben, en fait, c'est beaucoup la famille, les copains qui pallient. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas, qui n'ont pas beaucoup de famille, qui ont, voilà, hein, tout le monde ne vit pas.
Dont le sentiment d'isolement est encore plus fort.
Voilà, et c'est pour ça que ces femmes-là qui viennent à la marche, enfin, c'est frappant, qui le disent, hein, qui disent, ben, voilà, moi, j'aurais eu besoin de ça quand j'étais malade. Moi, j'aimerais bien peut-être donner un petit peu de mon temps. Enfin, voilà, c'est.
Vous en avez parlé tout de suite, Christelle, de. Librement, comme vous le faites aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu ce courage? Parce que c'est aussi du courage de.
Oui, je pense. Après, j'ai. Je sais pas si je peux dire j'ai eu la chance, mais j'ai une amie d'enfance qui a été touchée par la même maladie quelques mois avant moi. Et du coup, ben, je pense que ça m'a été d'une très grande aide. C'est qu'à chaque fois, elle me disait, on a eu le même traitement, le même parcours. Donc à chaque fois, elle me disait, t'inquiète pas, ça va durer que 2 jours, mais après, ça va aller mieux. Du coup, ben, quand on sait qu'on n'est pas bien, on sait qu'il va y avoir une fin. Parce que quand on ne sait pas, ben, on se dit, mais ça va durer combien de temps, ça? Et donc à chaque fois, ça m'aidait aussi à dépasser. Mais je pense que oui, j'en ai parlé assez facilement. Enfin, c'est mon entourage qui pourrait plus se dire, mais voilà. Après, je voulais juste rajouter, quand vous disiez, est-ce que c'est bon de toujours en parler? Tout à l'heure, je disais que j'ai fait de l'atelier aromathérapie. Je peux vous assurer que j'ai fait 8 séances. À aucun moment, on n'a parlé de nos maladies. On était 8-10 malades. Je peux assurer qu'aucun savait pourquoi. On sait qu'on est là parce qu'on est malade. Mais on ne savait pas quelle maladie on avait, quel cancer on avait. Enfin, donc on peut malgré tout se retrouver sans pour autant toujours en parler. Et c'est ça qui fait du bien aussi. C'est de partager des moments, mais pas forcément pour dire ben, moi j'ai vécu ça. Il y en a besoin. C'est sûr, mais on ne peut pas faire que ça.
On a bien compris, hein, de vivre tout simplement au jour le jour et d'essayer de retrouver la vie qu'on a normalement, entre guillemets. Lumineuse, Christelle Malinge. Est-ce que, Christelle, justement, vous avez tout de suite pensé, quand vous avez créé Les Agités, ensuite à vos dons et à la Ligue contre le cancer? Est-ce que c'est une association qui, tout de suite, vous vous êtes dit, tiens, eh bien, il faut que je bosse avec eux, il faut que je prenne contact avec
eux? On a un copain qui a la sclérose en plaques. Donc, du coup, dans nos statuts, c'était plutôt orienté vers la recherche médicale. C'est pas forcément que le cancer. Mais du coup, c'est vrai que comme il n'y avait pas de marche sur Bressuire, on a saisi ce créneau. Mmh. Et c'est vrai que pour l'instant, tous les fonds qu'on a donnés, on les a donnés vers la Ligue contre le cancer. Mais du coup, c'est pas exclusivement ça. C'est vraiment. On a organisé un loto pour avoir du financement. On aimerait bien aussi peut-être faire un petit, enfin pas un festival, mais du coup des cafés-concerts, voilà, pour avec l'idée à chaque fois de faire un petit événement culturel et puis partager des choses avec tout le monde.
Comment vous vous êtes contactés finalement l'un et l'autre? Est-ce que c'est aussi simple en fait, hein, lorsqu'on crée une association, on a des dons et puis après on doit les redistribuer à une association légale, entre guillemets, en tout cas implantée.
Implantée, oui, c'est-à-dire que la Ligue dans le... Bonjour d'abord, excusez-moi. La Ligue dans le département, c'est un comité, oui, qui a une antenne principale à Niort, une antenne, enfin un siège départemental à Niort, une antenne appartenait depuis déjà pas mal d'années grâce à l'une de nos membres qui s'est beaucoup investie et qui maintenant a laissé la place pour quelqu'un d'autre. Et puis il y avait une antenne à Thouars qui a périclité, qui n'existe plus. Pourquoi? Parce que, eh bien, je vous écoute, moi je suis très attentif à ce que vous dites, je vous sens pleine d'enthousiasme, mesdames, et j'en suis ravi. Le problème d'une antenne, c'est qu'il faut la faire fonctionner. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce que véhicule peut-être l'idée globale, c'est que les bénévoles, ben, il n'y en a pas tant que ça. À Niort, on est une poignée. À Parthenay, ils sont encore moins. à Thouars, on n'a pratiquement plus personne qui de déclaré, au moins. Et à Bressuire, c'est vrai que vous avez de l'envie, vous avez de l'enthousiasme. Je pourrais vous rétorquer, si je me faisais l'avocat du diable, pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant d'avoir envie de créer une antenne. Mais je comprends hein, parfaitement, c'est une boutade ce que je dis. Mais l'idée d'avoir une antenne à Bressuire, ça veut dire c'est de l'investissement, c'est du monde. Et nous, on est vraiment très enthousiastes à l'idée qu'une antenne se crée à Bressuire. Pourquoi ? Parce que vous l'avez évoqué, Madame Malinge, c'est-à-dire que vous, vos activités, ben, c'était Poitiers. Et nous, on sait très bien que les malades du cancer qui sont à Niort et qui habitent Bressuire, c'est la chapelle Saint-Laurent ou ailleurs, quand on leur propose des ateliers de soins de support, ils nous disent, mais attendez, moi j'habite à Bressuire, je ne vais pas venir à Niort pour une heure d'éducation physique, de soins de support. Donc c'est, l'idée, elle est totalement louable. De créer quelque chose sur Bressuire à partir du moment où il y a un local, où il y a des bénévoles, où il y a des formations qui sont suivies et assurées. Voilà, tout ça, c'est une chose à mettre en place et on est vraiment enthousiaste, je le répète, à l'idée que ça se fasse à Bressuire.
Alors, quand vous recevez les dons des associations, Philippe Barbotte, en tout cas votre comité, comment ça se passe en fait ? Comment sont-ils redistribués ? Est-ce que vous avez une latitude, vous, au sein de votre comité, ou bien il y a un protocole très strict au niveau de la Ligue nationale et qui vous permet d'aller vers tel ou tel...
Vous imaginez bien qu'il y a un protocole très strict, hyper strict. D'abord, la Ligue contre le cancer est labellisée don en confiance, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a une surveillance très pointue avec des commissaires aux comptes qui vérifient régulièrement l'usage qui est fait de l'argent. Il y a une surveillance juridique à Paris. Bref, on ne peut pas faire ce qu'on veut comme on veut.
Et heureusement, puisqu'on se souvient des dérives à une époque. Hein.
Alors, ce n'était pas la Ligue contre le cancer.
Non,
je le précise bien, parce que souvent, l'amalgame est fait entre une autre association qui avait connu certains déboires et la Ligue contre le cancer.
Bien sûr, non, mais je ne citais pas la Ligue.
La Ligue contre le cancer est la seule association, et la première association indépendante, je précise bien indépendante, a financé la recherche en France. La Ligue contre le cancer en France, c'est 30 millions d'euros cette année, en 2020, pardon. L'année dernière, 30 millions d'euros accordés à la recherche. Alors, dans ces 30 millions d'euros, il y a bien évidemment les dons des agités du Bocage, de la Partenésienne, du collège de Saint-Varan, qui fait tous les ans une journée dédiée à un petit garçon qui est décédé dans l'établissement qui est décédé, et qui fait une journée de course à pied au profit de la Ligue contre le cancer. Tout cet argent, bien évidemment, on n'est pas dans notre poche. On le récupère et on le redistribue. Comment on le redistribue ? Alors, on parlait des soins de support, donc nous, on a des salariés, des prestataires qui viennent assurer les soins de support, que ce soit l'activité physique adaptée, une psychologue, que ce soit la sophrologie. Ce sont des gens que l'on rémunère, qui acceptent de consacrer un peu de leur temps, indépendamment de leur activité personnelle, au profit de la Ligue contre le cancer. Donc on les rémunère et on est prêt, bien évidemment, à faire la même chose à Bressuire. Il y a la commission sociale. On a une commission sociale qui accorde des aides aux malades du cancer, aux familles qui ont perdu un proche, qui ont des difficultés pour payer des obsèques, pour payer une facture d'électricité. Voilà, on vient en aide à ces gens-là. Mais le gros de notre budget est dédié à la recherche. Donc tout l'argent collecté dans le département, il sert donc aux soins de support, à la commission sociale, mais majoritairement, bien évidemment, à la recherche. Comment ? De manière très simple, mais c'est très pointu aussi. Il y a des scientifiques, des professionnels de santé qui se réunissent une fois, plus d'une fois par an, et qui traitent les demandes faites par les chercheurs. Un chercheur, on a un chercheur de Sévrien, qui est notoirement connu, qui s'appelle Sébastien Papeau, qui est chercheur à Poitiers, par exemple. Et c'est un monsieur qui, tous les ans, fait un projet de recherche. Il dit, voilà, moi, cette année, mon projet de recherche, il porte sur telle et telle chose. Bien évidemment, c'est des projets qui portent sur plusieurs années, mais tous les ans, il l'actualise en disant, voilà, moi, j'ai un petit peu de personnel, j'ai besoin d'outils, j'ai besoin de ça. Ça risque de coûter tant. Qu'est-ce que peut faire la Ligue pour moi ? Donc, le conseil scientifique regarde la pertinence du projet Elle dit, ok, on retient ce projet-là. On ne retient pas tous les projets. On ne peut pas donner à tout le monde. Il y a des projets, ils sont classés en ordre. C'est un peu technique ce que je vais vous dire, mais il y a les projets de catégorie A, les projets de catégorie A', B, C, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on estime que les scientifiques, pardon, pas nous, mais les scientifiques, estiment... qualifie la pertinence du projet et en fonction de cette pertinence et de l'argent demandé, on accorde une aide. Très concrètement, en 2020, qui n'était pas encore une année, heureusement pour nous, on y reviendra peut-être tout à l'heure, une année trop marquée par la Covid, il y a eu une décélération, il y a eu une, bien évidemment, que l'on ressent beaucoup en 2021, mais en 2020, on a pu accorder plus de 300 000 euros à la recherche. Quand je dis 300 000 euros, c'est par rapport aux projets régionaux qui nous ont été présentés, on a donné 80 000 euros, et les 220 000 euros restants, on les donne directement à la Fédération nationale pour des projets d'envergure nationale, voire internationale.
Ce conseil scientifique, c'est un conseil scientifique national ou c'est un conseil scientifique régional ?
C'est un conseil scientifique régional pour les aides que l'on accorde à la région et un conseil scientifique national pour les aides que l'on accorde directement à la fédération.
Et quelle est approximativement la part quand la Ligue contre le cancer reçoit 100 euros ? Quelle part va à la recherche ? Quelle part va... vous parliez des soins de support, vous parliez des... quelle part va aux initiatives locales et à la recherche ?
Alors là, c'est une colle, mais je ne sais pas. Nous, sur notre budget, on va prendre notre budget. Notre budget global du département est de l'ordre de 450 000 euros. Et vous voyez, l'année dernière, on a donné 300 000 euros pour la recherche, sans parler des soins de support, sans parler de la commission sociale. Il faut dire que c'était une année quasiment exceptionnelle. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas les donateurs, c'est comme les bénévoles. Les donateurs, ils ne se bousculent pas à la porte de la Ligue contre le cancer. Je vais vous donner un chiffre. Dans le département des Deux-Sèvres, il y a actuellement, au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire en octobre 2021, moins de 3 400 donneurs. C'est-à-dire qu'il y a moins de 1% de la population deux-sévrienne qui se sent concernée par le cancer. Tout au moins venir en aide au cancer. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas concernés, c'est maladroit.
C'est-à-dire en aide directe. C'est-à-dire en aide directe, donne un chèque à...
Je donne 10 euros, je donne 15 euros. Il y a 3 400 personnes dans le département qui le font. Sur une population proche de 370 000, 380 000 habitants.
Comment vous l'expliquez d'ailleurs ça, Philippe Marmotte ?
Eh bien, parce que les gens ont d'autres préoccupations, ils sont beaucoup sollicités pour le... Moi, je blâme personne, mais les gens sont très sollicités pour faire des dons. Ils peuvent pas donner à tout le monde, c'est pas possible, que ce soit pour le cancer, que ce soit pour la Fondation France, que ce soit pour plein de choses, pour le diocèse ou autre chose, peu importe. Donc, quand on veut lutter contre le cancer, c'est vrai qu'on se heurte à ça. La seule chance que l'on ait, entre guillemets, c'est que la Ligue accepte et reçoit des legs ou des assurances-vie. Et ce sont eux qui nous permettent d'avoir des budgets plus conséquents. Mais un leg, vous en avez un une année, et rien ne vous garantit que dans les 10 ans qui vont suivre, vous en aurez. Donc, on est un peu dépendant en ce qui concerne l'aide qu'on va pouvoir donner à la recherche, des aides, des dons que l'on a. On ne peut pas dire tous les ans on va donner 200 000 euros ou 300 000 euros à la recherche. On donne en fonction de ce que l'on a, de ce que l'on reçoit dans le courant de l'année.
Le nombre de donneurs quand même est constant ou est-ce qu'on a
Il est en baisse.
Et un montant du don en baisse également.
Le montant moyen du don, heureusement, il est un petit peu supérieur. C'est-à-dire qu'on a moins de donneurs. On avait 3 800 donneurs l'année dernière. Aujourd'hui, on est à peine 3 400. Mais par contre, le don moyen, qui était de 75 euros, je schématise, est passé à 80 euros. Voilà, donc ça permet de compenser un petit peu la perte du nombre de donneurs.
Sauf que là, on peut aussi dire, s'il y a 750 marcheurs aux agités du bocage, ça fait 750 personnes qui vont donner pour la Ligue contre le cancer.
Oui.
Donc, en plus des 3 400.
C'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que les gens vont donner ponctuellement leur participation, leur inscription. Mm-hmm. C'est, nous, c'est les agités du bocage que l'on connaît. On ne fait pas un reçu pour chaque personne qui aura donné sa participation, sauf à ce que la personne dise, ben moi je fais un chèque, je veux dire n'importe quoi, de l'inscription, je sais pas le montant de votre inscription.
10 euros.
Moi je donne 30 euros par chèque, auquel cas vous envoyez le chèque directement à la Ligue et la personne recevra un récépissé. Je précise bien, et c'est important, que les dons accordés à la Ligue contre le cancer sont déductibles des impôts à hauteur de 66%, puisqu'on est une association reconnue. Voilà. Donc il y a des besoins. Il y a quelque chose qui est parfaitement orchestré, organisé, cadré. On est transparent, il n'y a aucun problème par rapport à ça. On a quand même aussi 3 salariés qui gèrent toutes les commissions sociales, les relations avec les bénévoles. Et je pense qu'il faut imaginer que ce n'est pas ce qu'on va demander à Bressuire si on crée une antenne. L'antenne de Bressuire, moi je l'imagine fort bien, dans un local adapté. Il y a un projet aussi avec la ville de Bressuire auquel on est associé et j'en suis ravi. Voilà, c'est un local, un espace où on puisse faire de l'accueil, un espace où on puisse rencontrer peut-être une psychologue, peut-être aussi des ateliers d'esthétique, la socio-esthétique, enfin faire plein de choses. L'activité physique adaptée, ce qu'on appelle l'APA. C'est quelque chose qu'on voudrait aussi développer. Et vous parliez tout à l'heure de la piscine, je trouve que c'est une excellente idée. Voilà, de pouvoir trouver des créneaux avec des associations sportives installées. Il y a le sport tennis, il y a le tennis pardon, qui est reconnu comme sport santé à Bressuire. Moi je trouverais intelligent et intéressant qu'on puisse peut-être un jour créer des ateliers tennis. Alors je sais bien pour les malades de cancer du sein, c'est un peu compliqué. Parce que souvent, il y a des métastases, des ganglions qui ont été touchés et que le bras en pâtit. Mais il n'y a pas que le tennis. Bon, on peut imaginer autre chose. À Bressuire, on a créé une section avec le rugby. Le rugby santé. Voilà, on peut jouer au rugby entre soignants et malades. Ben, il y a plein de choses à faire, c'est sûr. Mais je le répète, il faut de la bonne volonté et il faut des bénévoles. Il faut des bénévoles qui sont formés par la Ligue, que l'on forme à la Ligue.
Concrètement, une antenne pour fonctionner, il faut combien de personnes qui soient impliquées et régulièrement présentes ?
Alors après, c'est au bon vouloir des gens qui vont s'impliquer dans le bénévolat local. Mais c'est vrai que si on peut assurer une journée de permanence par semaine, par exemple, ou tous les 15 jours, je sais pas, enfin, mais avoir un local où portes ouvertes tout le temps, ça va être compliqué, ça va être lourd, mais on puisse faire de l'accueil, on puisse faire de l'échange. Il y a aussi l'idée de faire de l'écoute téléphonique, c'est-à-dire que nous, on a des gens qui sont formés, encore une fois, et qui peuvent être appelés ou qui appellent des gens qui sont en souffrance parce qu'elles sont isolées, parce qu'elles sont inquiètes. Les familles aussi, ça peut être la famille autour qui s'inquiète et qui moralement est touchée. Mais pour répondre à votre question, moi je ne sais pas, une antenne avec 10, entre 10 et 15 personnes, c'est peut parfaitement bien fonctionner, très bien fonctionner même.
D'autant qu'il faut insister, Philippe Barbotte, ces bénévoles à la Ligue, vous les former. Alors c'est-à-dire, quelles sont les étapes ?
Alors la formation, elle dépend de ce que l'on fait, mais globalement, au départ, de toute façon, c'est une formation sur deux thématiques. La connaissance de la Ligue, on souhaite que les gens qui s'investissent pour la Ligue contre le cancer connaissent la Ligue, sachent qui elle est, ce qu'elle fait, comment elle fonctionne, et ce qui dure une demi-journée à peu près, et une deuxième demi-journée qui est, elle, consacrée à la maladie, proprement dite, et qui est assurée par un médecin.
Christelle, une permanence à Bressuire, si c'est une fois tous les 15 jours, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que déjà, ce serait une première dynamique pour aller plus loin ? Ou d'office, vous nous dites, non, il faut une permanence une fois par semaine pour que ça tienne debout et que ça apporte vraiment à un malade ?
Est-ce que vous êtes assez catégorique, vous, sur le sujet?
Non, non, non. Effectivement, on tire toujours, on vous souhaite toujours le mieux. Mais déjà, commencer par tous les 15 jours et s'y tenir. Du coup, les malades sauront qu'il y a ces dates, ces deux dates-là possibles. Et puis, après, le faire vivre. Et peut-être, on pourra après mettre plus de
moyens.
Plus de moyens.
Ouais. Mais à un moment, il faut être réaliste, hein, tout simplement.
Oui, je voulais juste dire que comme on fait un appel aussi un peu aux bénévoles, je demande aux gens qui nous écoutent d'être assez curieux et d'aller sur le site de la Ligue. J'ai trouvé une petite vidéo YouTube sur ce que c'était que le bénévolat à la Ligue et les témoignages de certains bénévoles. C'est pas très long et je trouve que ça donne envie. Donc voilà, je voulais juste préciser.
Oui, Philippe Marbotte.
Oui, puis je voudrais apporter une note, je vais pas dire d'optimisme, mais de réalisme positif, si j'ose dire. Quand on est atteint d'un cancer, on a l'âge d'un cancer, je pense notamment aux femmes pour le cancer du sein, puisqu'en plus on est en plein octobre rose, il faut se dire qu'on est malade, certes, que c'est compliqué, c'est vrai, mais que la maladie, c'est quelque chose avec laquelle il faut vivre. C'est pas parce qu'on va se rebeller qu'on va dire pourquoi moi et pas une autre. Non, à un moment donné, il faut se dire, je sais que c'est facile à dire, mais la maladie, faut se l'approprier en se disant, il y a des chiffres qui sont là. Plus il y a une Française sur 8 va être touchée par un cancer du sein dans sa vie. Aujourd'hui, on est une sur 8. Les chiffres ne bougent pas. Depuis le milieu des années 80, les chiffres ne bougent plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de malades qu'avant. Mais il y a toujours une espèce de... Par rapport à la prévention, on est par exemple, puisque c'est de ça dont on parle, l'octobre rose, la prévention reste quelque chose de difficile. C'est-à-dire, j'ose pas aller voir mon gynécologue, j'ose pas aller faire une mammographie, pardon. Pourquoi j'en sais rien, mais c'est quelque chose qu'il faut pourtant faire. Dans le département aujourd'hui, le dépistage, si je peux me permettre de parler un peu de ça, le dépistage du cancer du sein est quand même très organisé. Grâce au Centre Régional du Dépistage des Cancers, qui est installé à Niort, et qui, tous les ans, convoque 30 000 personnes, 30 000 femmes âgées de 50 à 74 ans. Pourquoi 50-74 ans? Parce que c'est la tranche d'âge qui est la plus vulnérable, notamment entre 50 et 65 ans. C'est la tranche qui dépasse les 50% des cancers du sein. Et quel que soit le département, il n'y a pas de problème. Donc, c'est là, il faut se dire, il faut être hyper vigilant par rapport à ça. Et quand on dit, cette tranche-là, elle est dépistée tous les deux ans, c'est-à-dire qu'il y a 60 000 femmes dans ce département, 30 000 chaque année, 60 000 femmes entre 50 et 74 ans, et 30 000 chaque année sont sollicitées.
Qu'elles y vont?
Combien répondent? Directement, moins de 10 000. Une relance permet d'en solliciter, d'en sensibiliser 5 000 supplémentaires. En gros, il y a entre 14 500 et 15 000 femmes qui se font dépister tous les ans sur 30 000. Sollicitées. 30 000 à qui on dit, venez, c'est gratuit. Alors après, il y a le problème des radiologues, de la disponibilité des radiologues, qui aujourd'hui mettent en avant aussi la difficulté pour eux de trouver des manipulateurs en radiologie, un métier qui ne séduit pas visiblement.
Oui, c'est un constat, c'est très concret.
Voilà, c'est pas de la mauvaise volonté, il y a des délais d'attente, c'est certain. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il n'est pas obligé d'attendre 50 ans pour se faire dépister. Aujourd'hui, les médecins recommandent à des jeunes femmes de 25 ans et plus de se faire dépister. On va voir son médecin traitant. J'ai un doute. À la palpation, je sens quelque chose. Ben oui, ça arrive à des jeunes femmes aussi. Donc plus tôt on sera dépisté, mieux ça vaudra.
Oui, plus tôt on sera dépisté et plus tôt chaque femme, et d'ailleurs on peut parler des hommes aussi, hein, parce que même si ça reste minoritaire,
1%
voilà,
des hommes.
N'empêche, la palpation, ça devrait être... à la douche tous les matins, presque.
Oui, je veux dire, donc c'est pour ça, il faut être réaliste et optimiste en même temps. C'est-à-dire qu'on accuse le coup, je comprends parfaitement, on accuse le coup, mais se dire c'est une maladie aujourd'hui qui est maîtrisée un peu. Oui, il y a des décès, bien évidemment, tous les ans, il y a encore à peu près à l'échelle nationale 12 000 décès sur 60 000 femmes, mais qui se renouvellent, hein. c'est pas 12 000 sur les 60 000. Donc c'est quelque chose qu'il faut accepter et en même temps prévenir.
Vous voulez réagir, Christelle ?
Oui, quand vous dites accepter, je suis bien d'accord, mais effectivement, ce qui aide à accepter, c'est aussi un soutien psychologique qui est bien souvent à la charge du malade. Et du coup, tous ces soutiens qui sont qui aident vraiment, coûtent cher au malade au bout du compte, parce que il y a rien de remboursé, il y a rien de pris en charge. Et en plus, pour avoir un soutien psychologique, il faut trouver la bonne personne. Bon, ça, on a le choix, mais c'est pas si simple que ça, parce que il faut du temps, c'est de nombreuses séances. Et du coup, le fait d'avoir une antenne avec à disposition peut-être un soutien psychologique, là, ça peut aider.
Que je comprenne bien, Christelle, vous êtes malade, vous n'avez pas une prise en charge à 100% qui vous permet d'avoir une aide psychologique, par exemple, de voir un psy, tout simplement, pour parler.
Oui, non. Tout est à ma charge. Et toutes les démarches sont à la charge du malade. Enfin, moi, j'ai des expériences. Je vous assure qu'il faut avoir de l'énergie, parce que même au niveau administratif, c'est des dossiers à monter. Alors, on peut se faire aider par une assistante sociale, mais c'est pas si simple que ça. Il faut prendre un rendez-vous. Et puis, à un moment donné, dans le parcours de la maladie, parfois, tout devient effort. On se bat pour la maladie, et en plus, on a envie de dire, il faut que je gère ma situation administrative, il faut que je gère ma situation financière, il faut que je prenne soin de moi, il faut que je prenne le temps de me reposer, il faut que je prenne le temps pour mes enfants, pour mon mari, pour mes amis. Et là, parfois, on peut se sentir vite débordé. Alors, du coup, moi, c'est vrai qu'il y a plein de choses, par expérience, j'aurais envie de le faire partager aux malades, aux nouveaux malades, dire, il y a ça qui est faisable, il y a ça qui est faisable, attention, là, il faut faire attention à ça. Parce que, par expérience, du coup, ça gagne de l'énergie pour le futur malade, quoi.
Justement, Philippe Barbotte, j'allais vous poser la question, quels sont vos rapports avec les professionnels de la santé? Est-ce que vous avez une facilité à discuter avec eux, à leur rapporter les propos de ceux qui sont malades et qui, quelquefois, se retrouvent face à des professionnels? C'est quoi, là, votre marge de fonctionnement?
Oui, je peux bien comprendre que nous, on n'est pas médecins. Nous sommes des bénévoles de la société civile. Bien sûr, on a des relations avec des médecins. Bien sûr, on a des médecins qui sont membres de notre conseil d'administration. Mais le traitement est une chose. Nous, la phase dont on se préoccupe le plus, c'est l'après. C'est-à-dire trouver des créneaux, des gens qui acceptent de s'investir avec nous pour venir en aide aux malades et à leurs familles. Quand je disais accepter tout à l'heure, le mot était maladroit. Je m'en excuse. Ce qu'il faut accepter, c'est, je crois, d'être impliqué, de savoir que l'on est malade et qu'il faut trouver des solutions pour vivre au mieux cette maladie. Et je pense que dans ce que vous disiez par rapport à l'antenne de Bressuire, du fait que vous avez envie et que ce serait une création, il y a peut-être des choses à inventer dans les parcours de soins. Nous, on est référencés par rapport à l'activité physique adaptée, la sophrologie, mais il y a peut-être des univers qu'on n'a pas encore exploités. Peut-être vous parliez de tout ce qui est paperasse, tout ce qui est, peut-être que là il pourrait y avoir un atelier qui viendrait en aide aux gens qui sont un peu démunis au moment de remplir des documents. Ça peut être quelque chose d'intéressant.
Oui, mais d'où l'intérêt de la parole de celles et ceux qui sont concernés. Vous vouliez rajouter quelque chose, Christelle?
Effectivement, ça demande beaucoup d'énergie et de la ressource. Et c'est pour ça que ça fait du bien d'être entouré aussi. Ouais.
Il y a des domaines sur lesquels vous pouvez travailler en face. Vous le disiez, avec les professionnels, c'est peut-être plus compliqué. Ce n'est pas votre rôle premier. N'empêche, aujourd'hui, il y a une désertification médicale réelle. Et vous parliez tout à l'heure des radiologues. psychologues, notamment sur le sud du département, des manipulateurs qui ne sont pas assez nombreux. Est-ce que là, par exemple, la Ligue, vous avez un petit pouvoir d'intervention pour, par le biais d'une de vos commissions, pour dire ben, on est en manque et ça peut reporter des examens tellement importants à un instant T?
Vous imaginez bien qu'à l'échelle d'un petit comité comme le nôtre, notre voix peut être écoutée, qu'elles sont entendues, c'est autre chose. Mais l'une des missions fortes de la Ligue à l'échelle nationale, c'est ce qu'on appelle la défense des usagers, enfin l'éthique en elle-même. On a la Ligue, par la voix de son président malheureusement décédé, Axel Kahn, a fait remarquer que la Covid avait quand même bloqué beaucoup d'examens, avait retardé beaucoup d'interventions et que ça pouvait nuire, bien évidemment, à des personnes dont le cancer pouvait évoluer pendant ce temps-là. Venir dire à des radiologues qu'ils sont pas assez nombreux, oui, on peut toujours le dire, mais on n'a pas vraiment le pouvoir de leur venir en aide. On va pas créer un poste de radiologue. Ils sont déjà très impliqués. Je parlais tout à l'heure des mammographies organisées entre 50 et 74 ans. Il faut savoir que ces mammographies sont gratuites et qu'elles font l'objet d'un deuxième examen de contrôle, c'est-à-dire que des radiologues acceptent de consacrer, généralement c'est entre midi et deux, ils viennent au centre de dépistage des cancers et ils contrôlent des radios qui ont déjà été vues et qui leur permettent de redéceler peut-être après une première lecture, grâce à la deuxième lecture, certaines anomalies. Voilà, donc ils sont très impliqués, difficile pour eux de faire plus, mais c'est comme dans toutes les spécialités, il faudrait davantage de médecins, c'est clair.
Dominique Cadu.
Christelle, comment fait-on par rapport à son conjoint, par rapport à ses enfants devant une telle maladie, en sachant, on le sait tous, que certains conjoints sont partis dès l'annonce de la maladie de l'épouse? Comment fait-on pour résister? Comment fait-on pour donner le moral à ses proches?
Eh bien, oui, je pense que ben, parfois, on prend sur nous, on a le sourire, et puis ben, après, on se trouve un endroit où on est seul et on craque. Après, moi, avec mon mari, on a choisi d'être très transparent avec les enfants. Alors, et bien évidemment, pas non plus dans le détail, mais on explique où on en est, le traitement, ben, il fonctionne pas, mais il y aura autre chose. Voilà. Et puis d'y croire aussi, parce que ça c'est important, même si parfois on doute, c'est de retrouver assez d'énergie et de foi pour dire ben non, je vais y croire quoi. Alors oui, je vois bien qu'il y a des couples qui explosent face à la maladie. Après, ça peut, je peux comprendre que ça fasse peur. Hein. Même moi en tant que malade, c'est pas toujours rigolo hein, de vivre avec quelqu'un qui se lève et puis qui sait pas ce qu'il va faire de sa journée, qui se lève et qui passe sa journée à vomir, qui a envie de rien. Enfin voilà, il y a des jours comme ça, hein, ses potes. Enfin, je montre aussi le côté plutôt positif parce que je veux pas non plus tomber, mais ça je le nie pas. Il y a vraiment des moments difficiles, mais c'est là où le conjoint est aidant, on va dire. Mais il faut pas qu'il s'oublie non plus. Parce qu'ils ont, enfin, en tous les cas, pour ma part, souvent je dis, si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin d'aide, si vous trouvez que c'est trop lourd, n'hésitez pas. Parce que je pense que oui, c'est pas toujours simple pour eux.
Ouais, c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver.
Oui, moi je voulais répondre à M. Barbotte sur l'antenne. Alors du coup, on était bien partis parce qu'avec notre marge de 750, là, on était monté en gamme et on s'est fait une place aussi sur Bressuire. Les agités commencent quand même à être connus. Mais du coup, il y a eu la Covid hein, qui a freiné vraiment notre action et on avait du coup rencontré Emmanuel Ménard avec l'ancien maire qui sont prêtes à nous...
Donc Jean-Michel Bernier dans un premier temps.
Voilà, qui était déjà accompagné d'Emmanuel Ménard hein, et du coup qui nous avait dit, il n'y a pas de souci, on est là pour vous soutenir. Donc on était déjà dans une dynamique qui nous a stoppé net il y a un an et demi. Enfin voilà. Donc ça c'est dommage. Mais on n'a pas lâché l'affaire parce qu'on a quand même fait une marche virtuelle qui a fonctionné puisqu'on a quand même eu 250 marcheurs. Et on a montré qu'on pouvait être aussi créatif parce que voilà, on a fait des visios, on a fait des trucs très chouettes. Bon moi je suis restée chez moi parce que j'ai été qu'à contact donc j'ai pas pu participer. J'ai fait mon petit discours mais filmé. Mais du coup tout ça pour dire qu'on a vraiment à cœur d'ouvrir cette antenne Il y a plusieurs partenaires qui nous ont sollicité, comme le tennis club, hein, qui cette année, du coup, nous a sollicité pour faire parler de la marche. Et mais l'année prochaine, l'idée, c'est que si on réorganise une marche, il y ait des ateliers tennis aussi pour les marcheuses
dont on parlait,
et les marcheurs. Voilà, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe sur le territoire de Bressuire et qu'il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui sont très sensibles à la cause. Hein, vous avez donné un chiffre, une femme sur 8. J'ai regardé quand même les chiffres avant de venir. 4 millions de Français ont le cancer. Hein, ils vivent avec un cancer. C'est quand même à l'échelle... on est 65 millions, 4 millions, c'est parlant. Parfois, on me dit, oh là là, t'as pas de chance. Dans ton entourage, quand même, il y a beaucoup de gens qui ont un cancer. Ça dépend aussi comment on reçoit aussi ça. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui détournent le regard des gens malades, qui ne se rendent pas compte et qui, du coup, provoquent cet isolement. Parce que c'est vrai que, des fois, on sait bien qu'il y a des hauts, il y a des bas. Et il faut accepter aussi de partager ces moments de bas. Parce que c'est vrai que ça fait partie de la maladie, que ce soit du cancer ou d'autres maladies.
Et donc de la vie. Hein.
Et donc de la vie, voilà, merci Jacqueline. Donc c'est vrai qu'on a commencé aussi à parler autour de nous, aux gens qui nous sollicitaient, de dire est-ce que ça vous intéresserait d'être bénévole pour l'antenne. Donc on a plutôt des bons retours. Bon, maintenant il faut qu'on cale effectivement cette formation. Il faut, parce que c'est quand même important que les bénévoles soient formés. Hein.
Et puis indispensable, obligatoire.
Voilà. Et puis avec la ville de Bressuire, c'est aussi quand est-ce qu'on va pouvoir ouvrir les locaux. Enfin voilà, il y a tout. On est bientôt à la phase opérationnelle, je dirais. Ouais. Voilà.
Et ça vous motive. Là, ça vous tient pour avancer.
Oui, parce que c'est vrai que on a à cœur de le faire. Ça fait déjà un an et demi qu'on était dans cette dynamique-là.
Est-ce que vous avez un local qui est prévu ou pas?
Alors oui, la mairie nous a réservé un local. Alors c'est moi, je suis pas une super bressuiraise, hein, mais
dans les anciens locaux de la maisonnée ou la maison du social, quelque chose comme voilà.
Ouais, c'est le projet en cours.
Dominique, mais ça traîne. Hein.
Oui, c'est sûr. On aimerait que ça soit déjà fait, mais bon, je pense qu'après eux aussi ont des.
Mais là, vous avez un accord de principe. Hein.
Oui, on a un accord de principe.
Vous disiez tout à l'heure que vous en avez parlé avec votre maman qui avait vécu la même chose. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec elle de l'évolution des choses entre l'époque où elle a connu cette étape et vous, votre propre maladie?
Alors, en fait, elle a connu pas strictement la même chose. Elle a eu une première intervention avec une ablation partielle et la deuxième intervention avec une ablation totale et reconstruction. Elle n'a pas eu tous les traitements de chimiothérapie que j'ai eu. Donc, on ne peut pas parler de l'évolution de l'accompagnement.
Je ne pensais pas forcément au traitement médical, mais plutôt à la perception et à la façon dont c'était perçu dans la vie de tous les jours.
Oui, le regard, peut-être.
Comment elle avait vécu ça avec elle, ses propres proches. Vous étiez son enfant, donc les rôles sont inversés maintenant avec vos propres enfants. Comment éventuellement ça a évolué, y compris dans la société? On parlait de tabou tout à l'heure. Est-ce que, du coup, vous avez eu l'occasion d'en parler avec elle?
Oui, je pense que c'est un peu dans de famille. On n'est pas, on cache pas les choses. On se dit les choses. Maman en a parlé très, elle nous l'a dit. Après, effectivement, on n'était pas si informés sur le cancer que ça à l'époque. Enfin, moi, je pense que quand j'ai dit à mes filles que j'avais le cancer, elles savaient de quoi on parlait. Moi, quand maman me l'a dit, j'ai pas tout de suite compris. C'est plutôt quand il y a eu un peu l'annonce familiale où tout le monde s'est mis à pleurer, où j'ai pris en conscience que c'était pas anodin, quoi. Bon, après, maman, c'est quelqu'un aussi qui est d'un caractère assez fort et bon, allez hop.
Moi, pour compléter, je pense que quand même il y a eu un changement dans la société. Avant, c'était quand même un sujet tabou, c'était un peu honteux d'avoir un cancer du sein. Moi, j'ai des cousines dans la famille qui ont été soignées d'un cancer et qui nous l'ont dit une fois qu'elles avaient été guéries. Du coup, elles ont traversé les épreuves sans le dire à l'entourage. Donc, je pense que Octobre Rose, qui est maintenant un événement rentré dans notre société, a permis de libérer la parole, d'expliquer voilà, que le cancer, ce que vous disiez, c'est l'acceptation de la maladie, c'est aussi pourquoi moi. Hein, c'est ça qui est le plus dur à, aussi à accepter. On n'est pas capable d'expliquer pourquoi à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, à 50 ans, d'un coup le cancer se manifeste. Et du coup, c'est un sentiment d'injustice très fort qui fait que c'est ce sentiment, si voilà, il y a pas, on verbalise pas les choses et tout ça, peut faire qu'on n'accepte pas sa maladie. Hein, et du coup, je pense que voilà, toutes ces campagnes, toutes ces marches où on peut discuter de ça, où on peut sensibiliser les jeunes, parce que c'est vrai que nous, on a tous des enfants, hein, on a les minis agités qui sont avec nous et qui, depuis 6 ans, ont grandi avec l'association et qui sont investis et qui, du coup, parlent assez librement aussi de ça, de se palper les seins. Voilà, moi, ma fille, par exemple, elle s'est palpée les seins, elle s'est trouvée une petite boule. Bon, mais tout de suite, on était vers le médecin, c'était bénin. Mais je veux dire, il y a 20 ans, 40 ans, voilà, ça c'était des choses dont on ne discutait pas. Donc voilà, c'est vraiment important. Moi, je trouve cet événement d'Octobre Rose qui dure un mois et qui, pendant un mois, libère la parole et puis fait des actions concrètes. Une marche, c'est peut-être rien. Enfin, ça semble peut-être rien. Mais c'est quand même pas simple à organiser. Et puis, c'est une activité pour les gens qui ont envie d'aller marcher, qui se sentent impliqués dans la cause, un dimanche dans l'année.
De la vraie solidarité. Oui, Philippe Barbotti, ce sera le mot de la fin, et après on redonnera la date et les horaires de la marche.
Je rebondis sur la démarche qui est entreprise pour Octobre Rose. C'est vrai qu'on a symbolisé, grâce à l'appui de plusieurs municipalités, notamment celle de Bressuire ou encore de Mauléon, la présence de parapluies roses dans les rues. Alors c'est visuel, c'est pas grand-chose, mais c'est décoratif d'abord, c'est joli, et en même temps la couleur du rose et cette présence un peu originale de...
Le symbole
doit sensibiliser les gens à l'idée qu'il faut se prémunir contre le cancer. Il faut ne pas hésiter à aller voir un médecin. Il faut vraiment faire de la prévention. Et j'ajoute simplement pour conclure qu'il n'y a pas que le cancer du sein. On aimerait qu'il y ait cette même mobilisation autour de d'autres cancers, le côlon qui fait partie du même dispositif par rapport à la prévention. Donc voilà, il y a le cancer de la prostate, c'est le plus mortel dans la région Poitou-Charentes, devant le cancer du sein. Voilà, donc il y a plein de raisons d'être vigilant et de bien tenir compte des éléments de prévention que l'on peut utiliser.
Et on peut faire des dons, et il y a une défiscalisation à hauteur de 66%. Et des dons, on pourra en faire donc à la Marche Rose du 24 octobre, et celle...
C'est ça, Jacqueline. Donc, le 24 octobre, on vous attend nombreux et nombreuses. Du coup, il y a un départ échelonné, parce qu'au vu du contexte, on ne fait pas de départ groupé. Donc, ça démarre dès 8h30. Il y a 3 parcours, hein, le 5, le 10 et le 12 km. Le 5, il est accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes. Hein, on a voulu un parcours accessible au PMR.
Départ de la gare du fret. Hein.
Voilà, départ de la gare du fret. Le 10 km, c'est une marche classique. Et le 12 km, on traverse le golfe. Et normalement, il devrait y avoir une initiation au golfe pour les marcheurs qui le souhaitent. Voilà. Après, il y a aussi le club, donc j'en parlais tout à l'heure, le tennis club, qui alors viendra en force normalement marché, mais proposera aussi des ateliers santé pour ceux qui le veulent. Alors je pense que cette année ça va être un peu compliqué à organiser, mais peut-être l'année prochaine.
Ça sera pas le 24, c'est, ils proposent ça le week-end d'avant. Voilà. Au sein du tennis club.
Voilà. D'accord, donc le 17.
Voilà, mais et du coup on a...
Le dimanche ?
Oui,
pour le week-end.
Le week-end.
Bon. Alors vous pouvez vous inscrire sur Internet, hein, vous allez sur notre site, les agités du bocage, et du coup, il faut cliquer, sortir la carte bleue, une adhésion donc de 10 euros, et puis eh ben, on vous attend le 24 octobre pour marcher et profiter de ce moment.
Voilà, l'inscription obligatoire, Christelle, ou bien on peut quand même se présenter
Alors non, inscription obligatoire à l'avance, parce qu'effectivement, avec la Covid, ouais, c'est un peu compliqué quand même d'organiser des marches. Il y a beaucoup d'événements qui ont été annulés à cause de ça. Il y a le pass sanitaire aussi qui est obligatoire, hein, évidemment. Donc voilà, on incite vraiment les gens à s'inscrire avant. On fait des permanences au marché de Bressuire pour les gens qui ne voudraient pas payer en carte bleue. Hein, ils nous font un chèque et on fait leur inscription à leur place. Donc tous les samedis, là, jusqu'au 24, on est présents, les agités au marché de Bressuire, le samedi matin.
Merci, merci à tous et un merci particulier à Christelle Malinge, parce qu'on l'a dit, ça peut être encore tabou, il faut oser vouloir se livrer. Vous l'avez fait très naturellement et je le redis, elle est lumineuse, Christelle Malinge, depuis qu'on l'a rencontrée l'autre jour. C'est beau de voir une femme malade mais qui a ces yeux qui pétillent pour faire avancer son combat.
Elle les avait avant.
Ah oui, sans doute, je ne la connaissais pas avant, je connaissais vous. Merci Philippe Barbotte, merci à mes deux Dominique et donc aux deux Christelle qui étaient venues ce matin pour parler de cette marche rose et de cette lutte contre le cancer, les cancers, cette marche rose le 24 octobre prochain à Bressuire. On espère pour vous que cette permanence va pouvoir s'ouvrir désormais assez rapidement. Merci à tous.